Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour auditeuristes de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits de l'homme, section nantaise. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Béatrice et Brigitte pour causer pauvreté en prison. Pouvez-vous nous présenter les associations auxquelles vous appartenez et ce que vous y faites ?
Bonjour, donc je m'appelle Brigitte, je vais vous parler de l'ANVP, c'est l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice, dont le rôle principal est de permettre à des bénévoles d'entrer en prison pour rencontrer des personnes à leur demande ou à la demande de leur CPIP, le CPIP étant le conseiller en insertion probation. Je suis visiteuse depuis 3 ans. Depuis 6 mois, je vois 2 hommes pendant 1 heure, juste pour les rencontrer, juste pour parler avec eux de leur vie en détention, bien sûr. Parfois, on parle des menus, on peut parler de leurs activités quand ils en ont, parfois aussi de leur famille quand ils en ont et quand ils ont encore des contacts, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis aussi de politique, de ce qu'ils regardent à la télé, de tout ce qui peut les intéresser. Nous, on est là surtout pour les écouter et puis on relance la conversation si nécessaire. On est une quarantaine sur Nantes à faire ça. On est souvent remerciés par ces personnes parce qu'ils ont bien conscience qu'on leur consacre du temps. On leur explique qu'une personne ne se résume pas à sa faute et à sa peine, et qu'il y a eu un avant et qu'on leur souhaite qu'il y ait un après et que nous, on est juste là pour maintenir un lien, pour entretenir leur humanité dans un but de réinsertion.
Alors bonjour, donc Béatrice, je suis ligueuse et aussi à l'association Le Courrier de Beauvais qui organise et cadre de la correspondance entre des personnes extérieures avec des personnes en général condamnées.
Et quelles sont les thématiques qui reviennent le plus dans ces lettres ?
Alors, les contenus des lettres, c'est assez varié. C'est souvent la solitude qui est un problème, l'ennui, le manque d'activité, puis les projets, les tentatives d'avoir des contacts à l'extérieur, de sortir. Donc là, j'ai un correspondant qui cherche une place en EHPAD et qui est indigent. Déjà, pour lui, au quotidien, par exemple, pour me répondre, il me demande de temps en temps d'envoyer des timbres et des enveloppes parce que son pécule est déjà dépensé. Ou alors, il a été muté d'un centre à un autre. Le bagage reste là-bas et puis lui, il arrive avant et il doit se passer de ses affaires le temps que ça arrive, si ça n'est pas perdu en partie en route. C'est déjà arrivé. Donc c'est quelqu'un qui trouve un petit instant d'échappatoire en faisant du dessin ou de la peinture et il avait perdu tout son matériel en fait. Ça jouait sur son moral. Voilà, c'était un peu compliqué pour lui.
Chère Anne, j'ai bien reçu votre lettre et vous ne pouvez pas savoir le bien qu'elle m'a fait. Enfin, je ne suis pas seule, plus abandonnée. Quelqu'un pense à moi. Je sais que quelqu'un derrière ces murs sait que j'existe. Raymond.
Surpopulation, insalubrité des bâtiments, augmentation des violences, le bilan de l'Observatoire international des prisons est sévère au sujet des conditions de détention en France. Vous qui êtes sur le terrain, pouvez-vous nous en dire davantage ? Nantes fait-elle exception à la règle ?
Alors, il serait un petit peu difficile de dire que Nantes fait exception à la règle, mais ce que l'on peut dire, c'est que les bâtiments de la maison d'arrêt sont relativement récents et modernes, que le centre de détention également ne pose pas de problème en termes de qualité du logement, on va dire ça. Par exemple, on entend parler de rats, de punaises de lit, etc. Ce n'est pas le cas à Nantes. La maison d'arrêt connaît une surpopulation d'environ 140%, ça veut dire qu'il y a des matelas au sol, alors que au centre de détention, chaque détenu est en cellule individuelle, ce qui devrait être la règle pour tous les détenus, mais c'est loin d'être le cas. Et le centre de détention de Nantes offre aussi un assez grand nombre de formations qualifiantes, reprise des études, etc., et d'emploi. Alors, des emplois qui restent, on va dire, précaires un petit peu au niveau de la rémunération.
EPM, CD, MA, alors il y a les établissements pour mineurs, les centres de détention, les maisons d'arrêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences et les conditions, y sont-elles les mêmes ?
Alors, si on commence par l'EPM, donc établissement pour mineurs, il s'agit d'un centre de détention réservé à des jeunes entre 13 et 17 ans, et enfin, jusqu'à la veille de leurs 18 ans. Et s'ils sont condamnés, quand ils ont 18 ans, ils basculent au centre de détention. Donc l'établissement pour mineurs de Nantes peut accueillir une petite cinquantaine de jeunes. La priorité est donnée à l'éducation. La maison d'arrêt, c'est donc là où vont toutes les personnes prévenues, c'est-à-dire accusées d'un délit. Et là, le temps peut être long, d'abord parce qu'il y a peu d'activités proposées à la maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'ils sont presque tous H24 dans leur cellule, moins, je crois, 2 heures de promenade, une le matin, une l'après-midi, mais des promenades à laquelle tous n'accèdent pas, ou on va dire ne veulent pas aller, parce que c'est plutôt un lieu de tension et de violence. Et en plus, en maison d'arrêt, il y a beaucoup de tensions, j'ai envie de dire intimes, parce que beaucoup sont dans l'attente de leur procès et ne savent pas ce qui va leur arriver. Et puis après, il y a le centre de détention à Nantes qui accueille à peu près 500 personnes détenues et en cellules individuelles. C'est le propre du centre de détention. Il y a quelques cellules qui peuvent accueillir 2 personnes, mais ce sont 2 personnes à qui on... enfin, qui doivent être volontaires. Et là, ce sont des personnes qui sont pour plus de 2 ans et qui sont là pour exécuter leur peine.
Quels sont les problèmes au quotidien que peuvent rencontrer les détenus ?
La vie en détention est une vie assez compliquée et bien loin du stéréotype nourri, logé, blanchi. Oui, ils sont logés, oui, ils sont nourris, c'est-à-dire qu'ils ont un repas le midi et le soir qui est fourni par l'administration pénitentiaire, mais il faut savoir que beaucoup restent dans leur cellule quand ils n'ont pas accès au travail. Et le moyen de passer le temps, c'est la télévision. La location d'un téléviseur, c'est à peu près 15 euros par mois. Donc il y a ça, il faut louer le frigo, il faut louer les plaques électriques et puis il faut payer aussi pour la lessive. Le linge qui est fourni par l'administration pénitentiaire est lavé. Mais par contre, pour leurs effets personnels, sinon pas leur famille, ils doivent payer un jeton pour faire leur lessive. Très important aussi comme poste de dépense, le tabac. Alors ça, c'est pour l'aspect matériel. Pour l'aspect social, n'oublions pas que les relations entre personnes détenues ne sont pas non plus gratuites et qu'il est toujours compliqué de demander quelque chose à quelqu'un puisqu'on ne sait pas ce qui sera demandé en retour. La troisième difficulté, je pense que c'est l'attente. Parce que l'attente, c'est on a besoin de soins dentaires, il faut faire un courrier. On a besoin de voir son conseiller en insertion probation, il faut faire un courrier. Ils m'ont souvent dit on apprend la patience. Au CD de Nantes, depuis quelques mois, un téléphone a été installé dans chaque cellule. Mais ce téléphone n'est pas gratuit. Et ce sont eux qui appellent certains numéros, bien sûr, visés par l'administration pénitentiaire. C'est aussi un coût assez important.
Donc, comme on l'a vu, rien n'est gratuit pour la personne détenue. L'épicerie en particulier, enfin ce qu'on appelle cantiner en prison, qui consiste à commander sur une liste assez limitée de produits, ça se fait à un prix qui n'a pas de concurrent, puisqu'il y a un prestataire pour la prison, un prestataire privé. Donc il faut commander à l'avance, par écrit. On reçoit ensuite et on paye bien sûr ce qu'on a commandé.
Comment font-ils pour trouver du travail, gagner de l'argent ?
Alors, on peut travailler en prison si on a la chance d'obtenir un petit poste qui est moins bien rémunéré, nettement moins bien quand même qu'à l'extérieur, même si le droit du travail a un peu fait son entrée depuis quelque temps en prison. Il faut avoir la chance d'en trouver et puis d'avoir un profil qui soit compatible avec l'emploi qui est proposé. Si on a des problèmes de santé, si on a un cas psychiatrique par exemple, il est fort probable qu'on n'obtienne pas le poste. Et alors, si on obtient ce poste pour avoir un peu d'argent, soit pour son pécule, soit aussi pour indemniser les victimes, ou pour payer les charges qui continuent de peser sur le reste de la famille, si on avait des emprunts pour la voiture, la maison ou je ne sais quoi. Donc l'emploi en prison ne va pas être aussi rémunérateur qu'à l'extérieur. Et de plus, il entre en concurrence avec des activités qui seraient proposées, par exemple l'école à des heures précises, en même temps que souvent que les ateliers de travail, les activités culturelles aussi. Donc si on a un travail, on essaie de ne pas le lâcher quand même. Et c'est au détriment du reste, souvent.
Et la santé dans tout ça ?
Alors la santé, oui, c'est un gros problème. Au départ, déjà, on peut entrer en prison parce qu'on a déjà des problèmes d'addiction particuliers. Il y a beaucoup de problèmes d'alcool ou d'autres dépendances en prison. De plus, la détention elle-même peut provoquer des pathologies. Parce que si vous êtes toute la journée dans un petit espace, ne serait-ce que visuellement, les gens qui sortent, ils ont perdu l'habitude de voir au loin. Bon, il y a le manque d'exercice physique, il y a des heures de sport qui sont peut-être possibles, les promenades, c'est très limité quand même. Mais il y a une grande pauvreté relationnelle aussi. Ce pourquoi les visiteurs de prison et les correspondants sont là aussi, c'est parce que tout le monde n'a pas accès au parloir. La famille peut être très loin, les enfants, les proches... J'ai correspondu, moi, avec des gens d'outre-mer qui sont incarcérés en métropole. Donc, c'est très difficile pour eux.
J'en ai marre, tellement marre. J'ai envie de taper dans la gueule des gens en pensant que ça me soulagera. Et puis, j'ai peur, car je sens la haine m'envahir de plus en plus. Philippe. Je vais sortir après plus de 7 ans. Et déjà, je me rends compte que je ne serai jamais ce que l'on pourrait appeler un homme normal. Toutes les saloperies que j'ai connues au cours de cette détention font que quelque chose est brisé en moi. Michel.
Mais alors, avec toutes ces ruptures de liens sociaux, comment fait-on pour penser à demain ?
La question de la sortie se pose tout au long de la détention, puisque quand ils arrivent au centre de détention, ils connaissent déjà le terme. Donc l'accompagnement se fait au service pénitentiaire d'insertion probation, puisque chaque personne détenue se voit attribuer un conseiller. Ce conseiller va le rencontrer assez souvent, mais pas non plus très très souvent, quand on sait qu'un conseiller doit gérer entre 70 et 80 personnes. Au cours de toutes ces rencontres, les perspectives vont se dessiner en sachant que selon la durée de la peine, on va proposer à la personne soit une formation qualifiante, une reprise d'études. Il y a quelques détenus qui vont réussir à passer un bac, un BTS, voire plus, ça reste une exception. Et puis bien sûr, tout ce qui peut être chantier d'insertion. Et donc chantier d'insertion, on pourrait parler de source d'envol, la ferme de Saint-Gilda qui permet à quelques détenus, pour l'instant ils sont peu nombreux mais ça marche bien, de terminer une peine en étant très actif et puis axé sur un possible métier futur. Il y a bien sûr toutes les associations comme l'ETAP qui vont aussi proposer, pour retrouver un peu de vie sociale, des week-ends chez des gens qui vont les accueillir. Mais il existe malgré tout ce qu'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire que la personne arrive en fin de peine et le juge d'application des peines va... décrété, il n'est pas non plus responsable, hein, du jour de la sortie. Et ça peut être, comme ça l'a été pour une personne que j'ai suivie, un samedi du week-end de Pâques. Et encore, ce n'était pas une personne qui était démunie. Mais pour des personnes indigentes ou psychologiquement fragiles, voire addictes à l'alcool ou à d'autres produits illicites, c'est un échec assuré et c'est une récidive dans les 5 ans.
Donc oui, la sortie, c'est vraiment un parcours du combattant qui se prépare longtemps à l'avance et avec maints obstacles sur le chemin. Donc on est un peu affolé par l'annonce qui nous a été faite récemment d'envoyer en prison des squatteurs ou des gens dont le tort est de ne pas avoir réussi par miracle à trouver un logement là où tout le monde en cherche pratiquement. Donc là, on se dit que ces gens qui vont sortir en sortie sèche ou pas sèche, même en cherchant bien par tous les moyens possibles et légaux, ces gens-là, ils vont vite se retrouver à la rue ou dans des situations illégales qui vont les renvoyer en prison. Et si en plus on ramène les insolvables, les bons locataires travailleurs, mais insolvables quand même parce que les prix du marché sont trop hauts. On a vraiment des prisons qui, là, vont éclater parce que la surpopulation, qui est déjà flagrante, va être vraiment ingérable, quoi. C'est à éviter cette loi, je pense.
Égaux.
Nous voilà à la fin de notre émission sur la question de la pauvreté en prison. Nous espérons que cela vous aura un peu éclairé sur le sujet. Et si vous désirez devenir bénévole ou avoir plus de renseignements sur les associations qui sont nombreuses à Nantes, notamment comme l'ANVP ou le Courrier Beauvais, n'hésitez pas. Et rendez-vous mardi 17 janvier pour causer Palestine. À bientôt.